Bonsoir à tous. L'exécutif assume le poids des mots d'Emmanuel Macron. Un irresponsable n'est plus un citoyen pour le chef de l'État qui veut emmerder les non-vaccinés. Le propos, on l'a bien entendu toute la journée, a agité toute la classe politique au Sénat, à l'Assemblée où l'examen du projet de loi a repris. Ce soir, nous y serons. Dans l'actualité encore, le témoignage du directeur du CHU de Guadeloupe séquestré hier soir dans les locaux de l'hôpital. L'action de groupe des victimes de la dépakine recevable, une première en France dans le domaine de la santé et un soulagement considérable pour les familles. Et puis quand une banque en ligne fait le grand ménage, ce sont des milliers de clients qui se retrouvent presque du jour au lendemain sans compte bancaire. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien garçon, un soda citron s'il vous plaît. Le mois de janvier sans alcool, est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous passez votre tour? Nous sommes le pays ambivalent hein, sur l'alcool, notre santé, notre culture dans le même sac. Alors est-ce qu'on a envie de tester notre capacité à arrêter? C'est à ça que ça sert théoriquement, pour revenir ensuite à une consommation plus modérée. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous vous lancez? Dites-nous tout au 01 45 24 7000.
France Inter. Le choix du clivage pour entrer vraiment en campagne. Le chef de l'État a donc appuyé sur la fracture entre vaccinés et non vaccinés. On va les emmerder jusqu'au bout, dit-il, et même un irresponsable n'est plus un citoyen, banni des restaurants, des théâtres et donc de la vie démocratique. L'opposition a hurlé, réclamé des explications à l'exécutif et toute la journée, bonsoir Maxence Lambrecq, la journée, le gouvernement a assumé.
Oui, l'Élysée a dès hier soir transmis l'argumentaire, repris depuis, sans nuance, par toute la Macronie. Le gouvernement en mode campagne, quand le compte-rendu du Conseil des ministres se transforme en un plaidoyer pour le président, le porte-parole, Gabriel Attal, a voulu lui rendre hommage en reprenant ce joli terme de la langue française que les médias anglo-saxons ont eu du mal à traduire.
On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants? Qui gâche la vie de nos commerçants? Qui gâche la vie de nos personnes âgées? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français.
Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est un peu le slogan de cette pré-campagne avec Éric Zemmour. Emmanuel Macron se devait de descendre dans le chaudron, estime un stratège, sur un terrain qu'il maîtrise et qui, pour le défendre cet après-midi à l'Assemblée et au Sénat, le Premier ministre.
Ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout. Mais oui !
Oui, Jean Castex au front, alors que son prédécesseur Édouard Philippe n'a pas l'air convaincu. C'est Emmanuel Macron qui dira s'il le regrette ou pas. Hors micro, dans la majorité, des députés regrettent un dérapage, loin, trop loin du mea culpa d'il y a 3 semaines.
On ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus.
Et il ne l'a pas refait, assure l'Élysée, ni insulte ni mépris dans cette interview, mais sûrement de quoi animer ses 4 déplacements de la semaine prochaine et d'ici là les réseaux sociaux, 500 000 tweets en quelques heures.
Et Jean Castex, vous le disiez Maxence, est allé à l'Assemblée tout à l'heure pour répondre aux députés. Le Premier ministre y était réclamé, ça a encore échauffé les bancs en milieu d'après-midi. Simon Le Baron, bonsoir, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale avec Geoffrey Marianne, où l'on examine donc le texte qui transforme le passe sanitaire en passe vaccinal. Mais depuis ce moment un peu agité avec le Premier ministre tout à l'heure, ça s'est un peu calmé. Les députés se sont remis à l'examen du texte.
Alors, les députés de la France Insoumise en particulier poursuivent l'affrontement, mais oui, la tension est redescendue d'un ou deux crans, notamment sur les bancs des Républicains, qui, poussés par les propos polémiques d'Emmanuel Macron, ont décidé d'afficher leur responsabilité. Cet après-midi, vous l'avez dit, l'ambiance était encore électrique quand circulait dans les couloirs du Palais Bourbon la rumeur d'un 49-3. Finalement, le gouvernement a décidé de ne pas sortir l'arme atomique parlementaire. Les discussions ont donc repris dans ce climat plus apaisé, à tel point que beaucoup de députés ici pense désormais que le texte sera voté dans la nuit. Il reste encore 400 amendements environ à examiner, mais les points les plus sensibles sont passés. Le gouvernement a fini par accepter des jauges proportionnelles dans les grands stades et surtout, il a accepté de relever de 12 à 16 ans l'application du pass vaccinal pour les activités culturelles et sportives. Ça ne veut pas dire pour autant que la course d'obstacles sera terminée. Prochaine étape, ce sera le Sénat, où la droite n'a pas l'intention de débattre du texte avant lundi. Malgré tout, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, reste confiant sur une entrée en vigueur du pass vaccinal autour du 15 janvier. Presque, comme prévu.
Simon Le Baron, en direct de l'Assemblée nationale avec Geoffrey Marianne. Des débats un peu plus apaisés donc, après une tempête autour d'un gros mot qu'on aura donc beaucoup entendu dans la journée. Pas une once de regret, on l'a compris, de l'exécutif. Mais le propos a quand même crispé au-delà de la classe politique, y compris chez certains soignants, plutôt d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est le reportage France Bleu Touraine de Shadi Yaya.
Du côté de certains délégués syndicaux du secteur de la santé, les propos du président ne passent pas.
C'est grave comment il a parlé, qu'on ne parle pas comme ça quand on est président, quoi.
Alexandre Robert, délégué FO à l'hôpital de Chinon, pense que ce discours n'arrange rien. Selon lui, le vrai problème est ailleurs.
L'hôpital attend toujours des moyens. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est toujours dans le combat du Covid. On n'a pas plus de lits. Nous, dans les hôpitaux, ils ont toujours des restrictions budgétaires, de faire des économies à l'hôpital, etc. Il y a des problèmes à régler et on pointe encore des personnes non vaccinées. C'est pas en pointant du doigt comme ça, en leur parlant comme ça, que ça va arranger les choses.
Laurent Salsac, le directeur du nouveau centre de vaccination au parc des Expos de Tours, ne veut pas rentrer dans la polémique. Pour lui, l'essentiel, c'est de convaincre.
Moi, je ne suis pas politicien, je suis professionnel de santé. On n'est pas payé à l'injection. Moi, ce qui compte, c'est que les gens ils aient une information loyale. Et j'accompagnerai tous les gens, quel que soit leur statut, quel que soit leur besoin, pour les renseigner. Les gens qui ne sont pas vaccinés ou qui ont besoin d'informations peuvent venir directement ici pour poser leurs questions et puis repartir s'ils ne veulent pas être vaccinés. Il n'y a pas de pression particulière. Nous, on répond, on leur expose des faits. Et puis chacun est libre de prendre ses décisions.
Quoi qu'il en soit, les propos d'Emmanuel Macron n'ont pas eu de réelles conséquences. Sur les 1500 adultes vaccinés ce mercredi, une trentaine sont venus faire leur première dose. Quasiment tous avaient déjà pris rendez-vous.
La vaccination, qui on le sait, est un sujet de tension aux Antilles, en Guadeloupe notamment, où les positions des uns et des autres semblent bien irréconciliables. Le directeur du CHU et ses deux adjoints ont porté plainte après avoir été séquestrés hier soir par des syndicalistes qui réclament le versement des salaires des agents suspendus parce que non vaccinés. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
La tension, les violences là-bas sont encore montées d'un cran.
Oui, et cette tension se cristallise aussi. Au CHU de Pointe-à-Pitre, une centaine de personnes sont venues assiéger hier soir le bureau du directeur, finalement exfiltré par la police, déjà victime de menaces ces dernières semaines, rappelle Thierry Desjardins, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre.
Il a reçu des coups, des jets d'urine pour montrer le caractère odieux de l'acte qui a été commis. Gérard Cotelon, le directeur, est visé personnellement. Son adresse a été diffusée sur les réseaux sociaux, des photos de lui et de sa famille ont été diffusées. On est vraiment dans un contexte où une minorité veut faire régner la terreur.
Alors, 6 plaintes ont été déposées par l'hôpital et les personnels de direction, mais du côté des manifestants contre l'obligation vaccinale des soignants, Gabi Clavier, le leader du syndicat UGTG au CHU, dément toute violence hier soir.
Sur sa déclaration, il est sorti de son bureau sous protection policière. Il a été invectivé. En tout cas, ce qui s'est passé hier, c'est une colère légitime du personnel qui, depuis plusieurs mois, sont méprisés par cette direction.
Un personnel suspendu car non vacciné qui réclame malgré tout son salaire. La loi s'applique, rétorque Gérard Cotelon, le directeur.
Nous avons des gens qui se sentent au-dessus des lois. Les lois ne doivent s'appliquer que si ça les arrange. Ce n'est pas la conjuration des malfroids, des malhonnêtes. Cette conjuration n'aura pas raison de la déterminer.
Depuis ce matin, il travaille à son domicile. Il attend, dit-il, que l'hôpital soit sécurisé pour y retourner.
Le CHU de Pointe-à-Pitre qui rappelle tout de même que 95% des personnels ont répondu à l'obligation vaccinale. Et pendant ce temps, l'épidémie galope autour de 335 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. La vague Omicron atteint des niveaux stratosphériques dans plusieurs régions, constate le gouvernement, notamment en Île-de-France et en Corse. Un mois de janvier difficile à l'école, reconnaît Jean-Michel Blanquer. Quelque 7% d'enseignants sont actuellement absents, recense le ministre de l'Éducation nationale. Mais le pic d'absence ne devrait pas dépasser, dit-il, les 15%. Et dans ce contexte, comment les candidats à la présidentielle parviennent-ils à faire campagne? Comment se faire entendre face à un président qui ne cache plus son envie d'y aller et qui choisit ses mots pour s'imposer dans le débat? Valérie Pécresse inaugurait hier son QG de campagne. Aujourd'hui, Yannick Jadot choisit Bordeaux pour remobiliser ses troupes. Un déplacement axé sur les jeunes devant des élèves de Sciences Po et d'un CFA sur les métiers de l'environnement. Reportage signé Antoine Gignot.
Au milieu des fils électriques et des ordinateurs désossés, c'est Steve qui le premier interpelle le candidat pour parler de son parcours en dents de scie et de sa difficulté à trouver une entreprise.
L'apprentissage ne se fait même pas compter comme de l'ancienneté. Si on ne peut pas débuter, vous voulez qu'on fasse comment?
En réponse, Yannick Jadot attaque le gouvernement, le manque d'investissement dans l'éducation, la précarité des étudiants et désigne comme responsable Emmanuel Macron.
Le plus jeune président de la Ve République est un président anti-jeune. Il refuse que les jeunes dès 18 ans puissent bénéficier du RSA. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait ce qu'on appelle un revenu citoyen automatique, et à 880 euros au niveau du seuil de pauvreté.
Une pauvreté que le candidat écologiste dit vouloir éradiquer. Il faut, dit-il, revaloriser les filières de formation, créer des emplois. Discours à moitié convaincant pour les étudiants.
Clairement, qu'il n'y ait pas que des paroles, qu'il y ait des actes faits. On attend tout ça, je pense que j'irai voter, mais enfin, j'ai pas de décision prise.
Quant à la question de l'unité de la gauche, d'une éventuelle alliance avec le PS, Yannick Jadot la balaye d'un revers de main.
Moi, mon sujet, c'est pas de sauver le Parti Socialiste. Il n'y a qu'un seul débouché politique, c'est l'écologie. Et il va falloir que chacune et chacun s'y fasse.
À 100 jours du premier tour, le message est clair. Plus question de parler de primaire.
Antoine Gignot à Bordeaux avec Benjamin Thuot.
Et puis voici une première bataille gagnée par les familles des victimes de la Dépakine.
L'action de groupe présentée par des victimes contre Sanofi a été jugée recevable aujourd'hui par le tribunal. Le laboratoire français jugé responsable d'un manque de vigilance et d'information sur les risques du médicament qui ont pu provoquer des malformations sur les fœtus de femmes enceintes. Cela ouvre la voie à un procès et pour Marilyn Bourdi, mère de deux enfants handicapés dans la Drôme, cette décision, c'est énormément d'émotion.
C'est une victoire, déjà pour nous les victimes. Enfin, être reconnue par la justice, c'est un grand pas déjà, par l'association et puis pour les familles victimes de la Dépakine. Et moi, je suis heureuse parce que ça fait depuis quelques temps que je dis, mais on a besoin d'avoir des réponses sur la Dépakine. Pourquoi ils ne nous ont rien dit pendant des années? Là, j'ai mes enfants qui ne sont pas au courant. Et je sais qu'il y a une de mes filles qui va venir, je vais lui dire, et elle va pleurer parce qu'elle va être heureuse. Enfin, on voit le tunnel. Les familles méritent le procès. Et donc, moi, je veux justice. Non seulement pour mes enfants, mais pour la famille.
Un témoignage recueilli par France Bleu Drôme Ardèche. Sanofi a déjà annoncé son intention de faire appel. Vapoter n'est pas à conseiller quand on veut arrêter de fumer. C'est l'avis du Haut Conseil de la Santé publique adresse aux professionnels. Le Haut Conseil leur demande de privilégier les patchs ou les gommes à la nicotine qui, eux, ont prouvé leur efficacité, ce qui n'est pas le cas à ce stade de la cigarette électronique. Et voici une étude qui peut faire réfléchir sur la consommation de cannabis. Étude de l'INSERM. 1500 personnes suivies sur 9 ans pour arriver à ce constat. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Plus vous consommez jeune, plus vous avez un risque de connaître le chômage à l'âge adulte.
Et oui Hélène, fumer du cannabis avant 16 ans multiplierait selon cette étude par 2 le risque de vivre une période de chômage par rapport à une personne qui n'en aurait pas consommé à l'adolescence. L'étude a été réalisée sur 1500 adultes âgés de 22 à 35 ans. Ils ont été suivis, vous le disiez, pendant 9 ans et ont été questionnés sur l'âge de leur premier joint, leur activité professionnelle une fois adultes, mais aussi d'autres critères comme leur niveau socio-économique pour éviter tout biais. Maria Melchior est épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM.
Tout l'intérêt de notre étude, c'est d'avoir pu prendre en compte à la fois les caractéristiques donc des familles des jeunes, mais aussi leurs propres difficultés à l'école et difficultés de comportement ou psychologiques avant l'apparition des premières consommations de cannabis. Donc on a pris tous ces éléments en compte et toutes choses égales par ailleurs, même une fois ces éléments pris en compte, on trouve que les personnes qui ont consommé du cannabis avant 16 ans ont plus de risques de rencontrer des épisodes de chômage à l'âge adulte.
L'Institut de recherche avait déjà démontré dans une précédente étude que les consommateurs de cannabis à l'adolescence avaient un risque plus élevé de ne pas suivre d'études supérieures, mais cela n'explique pas entièrement cette association, constate l'épidémiologiste. L'étude ne s'intéresse pas aux mécanismes qui expliqueraient cette plus grande difficulté d'insertion professionnelle. Bien sûr, les effets biologiques reconnus sur la mémoire, la concentration, la motivation peuvent y contribuer. L'INSERM va maintenant s'intéresser à la consommation à travers les âges. Les fumeurs de cannabis pendant l'adolescence sont en effet de plus en plus nombreux à continuer à l'âge adulte.
Une étude à retrouver en détail sur franceinter.fr. Ça a dû faire un drôle d'effet tout de même à ces milliers de clients de la banque en ligne ING Direct quand ils ont reçu ce mail les informant de la fermeture prochaine de leur compte bancaire. Le groupe néerlandais s'apprête à cesser son activité en France. Alors, il fait le ménage, Agnès Soubiran.
Donner à la mariée une allure plus présentable, cela passe par la fermeture de ses dizaines dizaines de milliers de comptes inactifs depuis plusieurs années et où ne restent parfois que quelques euros. Des comptes d'épargne, notamment ouverts lors de l'implantation d'ING Direct en France il y a 20 ans. La banque en ligne néerlandaise proposait alors des taux super bonifiés autour de 3%. Mais lorsque ces taux sont redescendus à des niveaux équivalents à ceux de ses concurrents, les clients ont souvent repris leur épargne, car ING n'a jamais réussi à fidéliser sa clientèle, malgré la mise en place de crédits immobiliers il y a 18 mois, là aussi avec des taux intéressants mais vite concurrencés par d'autres acteurs en ligne. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ses clients engagés dans un crédit immobilier que la situation est peut-être la plus inquiétante. La banque au Lion Orange envisage de garder une équipe dédiée pour suivre les clients jusqu'à l'échéance de leur prêt ou de revendre cette activité. Car pour l'heure, les principaux candidats au rachat d'ING Direct, à savoir la Société Générale et sa filiale Boursorama ou le Crédit Mutuel Arkéa avec Fortuneo, ne semblent pas intéressés par la reprise des crédits immobiliers.
Agnès Soubiran, ce tragique incendie ce matin à Marseille, le feu a pris dans un appartement de la cité populaire des Rosiers au nord de la ville. Un enfant de 5 ans grièvement brûlé a succombé à ses blessures. 7 autres personnes sont hospitalisées. On ignore encore les causes du drame, mais l'immeuble n'était pas en bon état.
Un an après l'assaut du Capitole aux États-Unis, des centaines de personnes sont toujours recherchées par le FBI.
Qui épluche des milliers d'heures d'images, de caméras, de surveillance, mais aussi celles de réseaux sociaux filmées par les manifestants eux-mêmes, bien souvent. Jusque-là, plus de 700 personnes ont été arrêtées et les autorités ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À New York, Loïc Loury.
D'après le gouvernement fédéral, jusqu'à 2500 personnes impliquées dans les émeutes du 6 janvier pourraient être visées par la justice. Jusque-là, 720 environ ont été arrêtés, plus de 160 ont déjà plaidé coupables, sur la base de données collectées dans la quasi-totalité des États américains, dont 14 000 heures de vidéos en tout genre. Pour l'instant, seuls les émeutiers à proprement parler ont toutefois été inquiétés et rien n'indique de prochaines inculpations dans l'entourage de Donald Trump ou contre le président, lui qui demandait à ses supporters avant l'invasion du Capitole de se battre comme des diables. Un an après ces événements, le ministre de la Justice pourtant est sous pression alors que certains républicains de plus en plus s'attachent à réécrire l'histoire. La vraie insurrection, dit ainsi Donald Trump, avait eu lieu le 3 novembre, jour de l'élection présidentielle, qui, affirme-t-il, lui a été volée. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'étranger, c'est aussi le Kazakhstan qui décrète l'état d'urgence sur tout son territoire après les troubles des derniers jours. Manifestations de protestation sur fond d'augmentation des prix du gaz, rarissime dans un pays autoritaire où les rassemblements sont censés avoir l'aval des autorités. Et puis en bref, encore en Australie, les pilotes de ligne semblent un peu rouillés. La compagnie Qantas a recensé pas mal de bourdes ces derniers temps. Certains ont oublié de desserrer le frein au moment du décollage. D'autres ont confondu l'altitude et la vitesse. Bon, faut dire que le pays a fermé ses frontières pendant quasiment 2 ans en raison de la crise sanitaire. Il y a de quoi perdre ses réflexes. La bonne santé, c'est encore ce qu'on peut souhaiter de mieux pour cette année. Et les bonnes résolutions, on est sûrement quelques-uns à avoir levé le pied. On va essayer déjà d'être un peu plus léger. Mais il y a toujours ceux qui croient à cette promesse. Se remettre au sport cette fois, c'est bon, j'y vais. Ça tombe bien, malgré le Covid, les salles restent ouvertes. Pas de nouvelles restrictions en vue. Winnie Claret a mouillé le maillot.
On enfile le legging et on remplit la gourde. C'est parti pour la première séance de rameur de l'année pour Mathilde.
Je m'y remets tout juste. En fait, j'ai commencé 2-3 séances et puis finalement, j'avais un peu arrêté quand même. Donc là, je reprends. C'est une résolution en fait.
Ce sera vélo cette fois pour Anaël qui a un peu hésité à continuer le fitness en plein rebond de l'épidémie.
Je me suis posé la question. Après, on a le masque en dehors des machines. Je me dis, moi je suis vaccinée, tous les gens qui sont ici sont vaccinés. Au bout d'un moment, il faut continuer de vivre aussi quoi.
Dans cette salle néo-naise du 16e arrondissement de Paris, personne ne craint la mise en place d'un pass vaccinal, selon le manager Quentin Gaby.
Des personnes qui ont des tests, j'en vois vraiment plus beaucoup. Tout le monde est vacciné. Tout le monde vient même montrer sa troisième dose avant qu'on la demande.
Des sportifs pas dissuadés par la crise sanitaire, qui sont même revenus en nombre depuis septembre, selon lui. Enthousiasme que ne partage pas du tout Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui représente plus de 2000 salles en France.
Depuis le mois de novembre, c'est un peu la catastrophe. On navigue sur des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 30% par rapport toujours à 2019.
Des réunions sont en cours entre le gouvernement et les représentants du secteur qui réclament notamment de repousser le remboursement des prêts garantis par l'État et de prolonger les reports de charges.
Un reportage de Winnie Claret sur la bonne résolution par excellence. Mm-hmm. Bah moi, je vous préviens, je teste ma capacité à arrêter le sport.
Oui, oui, bah alors moi, je la teste depuis un bout de temps aussi. J'ai beaucoup trimballé mon sac de piscine, je suis jamais mouillée. C'est un truc de fou, ça, ces derniers temps. Allez, merci beaucoup, Hélène Filly. On va bien sûr se retrouver demain, le 18-20, continue. continue avec le téléphone sonne. On parle de ce mois de janvier sans alcool, quitte à pas faire de sport, autant pas picoler non plus. Est-ce que vous vous lancez ce défi? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille là-dessus? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel quand même.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léa, j'allais dire, cette saison, l'ambiance est hivernale.
Oui, effectivement, on retrouve enfin des températures plus normales pour un début janvier. La baisse amorcée depuis hier se poursuit. Il faut donc s'attendre à de nombreuses gelées la nuit prochaine. Prévoyez par exemple moins 2 degrés à Cognac, Agen, Grenoble, Alençon ou encore Tours. L'après-midi, les maximales seront sensiblement proches de celles de cet après-midi, mais avec quand même quelques degrés de moins sur le sud-est. 5 degrés à Rouen et à Lyon, 6 degrés pour Paris, Strasbourg et Lille, 7 degrés à Toulouse, 9 degrés à Marseille, Perpignan et Bordeaux. On ira jusqu'à 10 degrés à Brest et 13 degrés à Toulon et Ajaccio.
Grisaille sur le nord-est, plus ensoleillé ailleurs.
Oui, les nuages étaient bien étendus aujourd'hui sur le Grand Est et ils vont avoir tendance à glisser plus au sud cette nuit. La journée de demain s'annonce donc très nuageuse entre le Massif central, les Ardennes, l'Alsace, le Jura et les Préalpes du Nord. Quelques flocons pourront même s'échapper dès les premières hauteurs. Sur le reste de l'Hexagone, la journée sera lumineuse et bien ensoleillée. Le pourtour méditerranéen sera encore balayé par de puissantes rafales de Mistral et de Tramontane. Et puis sur le nord-ouest, le ciel va commencer à se charger dès le matin. Les éclaircies seront encore belles en début de journée, mais au fil des heures, le ciel sera de plus en plus laiteux. Les nuages débordant jusqu'au Pas-de-Calais, à l'ouest parisien et à la Vendée. En Bretagne, le temps deviendra même pluvieux demain après-midi, mais les pluies seront généralement faibles. Et puis en Corse, en revanche, la journée de demain sera rythmée par les passages d'averses tout au long de la journée.
Et Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.